Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Toutes et à tous, Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Après les émissions sur le colonialisme et la série Hugo, j'ai besoin de m'amuser. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je lance une nouvelle forme d'émission, la chronique. C'est une forme d'écriture ou d'échange que j'aime particulièrement puisque c'est le titre que j'ai donné à mon blog. chroniquedunsiècle.com. Il est une grande question dont on ose parler ouvertement aujourd'hui, mais qui dans les siècles passés, enfin jusqu'au 19e siècle, n'était pas tabou. Il s'agit, comme l'écrivait en 1729 Jonathan Swift, le père de Gulliver, du grand mystère, ou l'art de méditer sur la garde-robe. La garde-robe étant le lieu des commodités. Bref, les gogues, les goguenots, les latrines, les chiottes, le petit coin, les WC, les latrices. Voici un extrait de cet ouvrage qui introduit cette chronique. Je connais bien peu de gens qui possèdent le grand art de chier. La plupart du monde s'acquitte de cette fonction ou à la hâte, comme s'il le faisait à regret, ou avec insolence, comme si c'était une action peu importante. La manière triviale de défaire son haute chose, les airs maladroits qu'on se donne sur les privés, les grimaces affreuses et les exclamations barbares qu'on y fait, voilà autant de points sur lesquels une réforme est d'une extrême nécessité. Avant toute chose, la question primordiale est celle du torche-cul, qui, comme toute chose, a son histoire. Je laisse donc la parole à l'historien québécois Laurent Turcot, que vous pouvez retrouver sur YouTube dans son émission « L'histoire nous le dira ».
Les Grecs antiques utilisaient les pessois, ce qui veut dire « cailloux ». Et l'écrivain grec Aristophane évoque cet usage dans sa pièce « La paix » qui est jouée pour la première fois en 421 avant Jésus-Christ. Les archéologues ont d'ailleurs retrouvé des pessois dans des latrines partout autour de la Méditerranée. Les latrines, c'était des toilettes collectives qui étaient utilisées par les Grecs et les Romains. Ces pessois étaient d'environ de 3 à 10 cm de diamètre et étaient épais de 0,6 à 2,2 cm. Précis, hein? Vous avez bien compris, là, on s'essuyait les fesses avec des cailloux. Ouch! Généralement, il s'agit de fragments de vieille céramique dont les angles ont été polis. Question d'éviter les blessures, parce que disons que ça peut faire assez mal quand la roche est pas bien polie. À l'époque de la Rome antique, la majorité des historiens croient que les Romains utilisaient plutôt le tersorium. Il s'agit d'une éponge fixée au bout d'un bâton. Celle-ci semble avoir été utilisée pour s'essuyer les fesses. Après usage, elle était rincée et laissée à la disposition du suivant. Vous avez le droit de dire que ça vous dégoûte. On a le droit, ouais. Une des seules mentions de cet outil est faite par le philosophe Sénèque le Jeune. Il raconte le suicide d'un gladiateur germanique dans des latrines, en s'enfonçant un tersorium dans la gorge. Sénèque décrit l'objet comme servant aux plus vils usages, ce qui a été interprété comme un objet pour s'essuyer les fesses. D'autres chercheurs considèrent plutôt qu'il s'agissait d'une brosse de toilette. Hein? C'était peut-être même les deux, si vous voulez mon avis. Au Moyen Âge, peu de témoignages écrits mentionnent les matériaux utilisés pour s'essuyer les fesses. Les archéologues ont retrouvé plusieurs matériaux variés, des vieux chiffons, des bouts de tissu et des petites boules de laine. Des matières végétales étaient aussi utilisées, telles la mousse, les feuilles, le foin ou la paille. On l'a tous fait en campagne. Non? Non? En Asie, l'usage des bâtons hygiéniques s'est répandu à partir de l'Inde, vers la Chine puis le Japon. En Chine, les archéologues ont retrouvé des bâtons de bambou datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Ces bâtons étaient enveloppés de tissu, ils étaient trempés dans l'eau et permettaient de se nettoyer après avoir déféqué. L'usage de bâtons hygiéniques s'est répandu au Japon et s'est attesté durant la période Nara, de 710 à 784. Ces bâtons, les shuji, étaient faits de bois et étaient longs de 20 à 25 cm. Aucun tissu ne les recouvrait. Vous Vous avez bien compris, c'était des bâtons pour s'essuyer les fesses. Après des pierres, c'est maintenant le tour des bâtons.
Ouch!
C'est en Chine qu'est inventé le papier, et ce, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Sans surprise, c'est dans cette région qu'a été utilisé pour la première fois le papier de toilette. Le premier témoignage en ce sens date de 589 après Jésus-Christ. On pouvait s'essuyer avec du papier usagé ou du papier neuf. Ce dernier était fait de paille de riz. Il était doux et était facile à produire, donc peu cher. Les Chinois en consommaient beaucoup. Un rapport de 1393 spécifie que 720 000 feuilles de 60 cm par 90 étaient produites annuellement uniquement pour le palais impérial. De plus, 15 000 feuilles de 20 cm carrés étaient produites uniquement pour la famille impériale. Ce papier était plutôt doux et parfumé. Du moins, c'est comme ça qu'on en parlait. À l'époque de la Renaissance, en Occident, c'est Rabelais, auteur et médecin, qui mentionne pour la première fois l'usage du papier pour s'essuyer les fesses. Dans un chapitre, le géant Gargantua raconte à son père les différents matériaux qu'il a utilisés pour s'essuyer les fesses. Il donne une longue liste de matériaux qu'il juge à peu près tous inadéquats. C'est notamment le cas du papier parce qu'il irrite les parties intimes de celui qui l'utilise. Ben ouais. L'usage du papier se répand en Occident comme l'attestent les aventures de Simplicius Simplicimus de 1669. Ce roman biographique et humoristique a pour héros Simplicius, un moine fugitif. Dans un chapitre, il raconte se réveiller chez une connaissance et chercher un endroit pour faire ses besoins. Ensuite, il s'assoit et s'exécute. Puis, il saisit une feuille suspendue pour pouvoir s'essuyer. Le papier lui parle et converse avec notre héros. Le papier exprime sa déception de se retrouver obligé d'essuyer les fesses d'un moine fugitif plutôt que celle d'un roi. Pour tenter d'échapper à son destin, le papier raconte ses multiples vies. Ce papier fait de chanvre commence sa vie comme chemise pour devenir ensuite du papier d'écriture puis du papier d'emballage. Il ne réussit malheureusement pas à émouvoir Simplicius et termine sa vie entre les fesses de ce dernier. Bien qu'étant un roman, cet extrait montre bien que c'était alors du papier usagé qui était utilisé comme papier de toilette. À cette époque, en Europe, le papier est quelque chose de rare et de coûteux. Le développement de la presse périodique au 18e siècle, puis sa diffusion plus grande au 19e siècle, contribue à le rendre plus courant. D'autres imprimés courants étaient aussi utilisés. C'est notamment le cas des almanachs. Plusieurs lecteurs perçaient un trou dans le coin supérieur gauche et les suspendaient au moyen d'une corde. Ce n'était pas uniquement pour être lu qu'ils les suspendaient. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, non? L'industrialisation change cependant la donne. Il devient possible de produire du papier à faible coût et en grande quantité. Ça contribue à diffuser encore plus le papier dans la société, mais surtout, grande nouveauté à l'extérieur de la Chine, il devient possible de produire du papier neuf qui est maintenant destiné à essuyer les fesses de tout un chacun. En 1857, l'entrepreneur new-yorkais Joseph Gaiety crée le premier papier de toilette commercial. Il inscrit son nom sur chacune des feuilles. Question qu'on sache avec quoi on s'essuie. Pour mousser les ventes du produit, il est présenté comme un produit médicinal devant prévenir les hémorroïdes. Ce medicated paper était vendu en paquets de feuilles et non pas en rouleaux, comme aujourd'hui. C'est en 1890 que le premier papier en rouleau est mis sur le marché par Clarence et Irvin Scott. Ce nom devrait vous dire quelque chose. Il est aussi vendu à cette époque-là comme un produit médicinal. L'année suivante, en juin 1891, Seth Wheeler dépose un brevet pour l'invention du papier de toilette en rouleau. Trois mois plus tard, il améliore le système en imaginant des lignes de perforation pour détacher plus facilement les feuillets. Un bref regard sur le brevet permet de clore le fameux débat par-dessus ou par-dessous, relativement au côté où doit être placé le rouleau. À la fin de la décennie 1920, la Auberg Paper Company met un papier de toilette explicitement destiné aux femmes. Le marketing de ce produit, le Chacha Charming, met l'accent sur la douceur du produit et la féminité plutôt que sur les propriétés médicinales. C'est le début d'une ère nouvelle pour le papier de toilette. Le début de l'âge d'or du papier de toilette accompagne la société de consommation qui prend naissance après la Seconde Guerre mondiale. La croissance économique des années 1950 et 1960 rend ce produit accessible au plus grand nombre, notamment en Allemagne et en France. La hausse de sa production fait aussi diminuer son prix.
Laurent Turcot a mentionné Rabelais. Revenons donc sur ce médecin et écrivain truculent. Au XVIe siècle, Rabelais avait observé les manières de se torcher. Et dans Gargantua, il en fait une parodie dans un chapitre intitulé « Comment Grand Gousier connut l'esprit merveilleux de Gargantua à l'invention du torche-cul. Les géants Grand Gousier et Gargamel ont eu un fils, Gargantua, et à travers ces bons vivants, Rabelais, cet humaniste, s'en prend à la société finissante du Moyen-Âge et promeut la pensée humaniste. Voici un extrait de ce fameux chapitre.
« Il n'est pas besoin, dit Gargantua, de se torcher le cul, sauf s'il est sale. La saleté ne peut s'y trouver si on n'a pas chié. Il faut donc chier avant de se torcher le cul. « Oh, dit Grand Gousier, que tu as de l'esprit, mon petit garçonnet. Pardieu, je te ferai rapidement passer docteur en gaie science, car tu as plus d'intelligence que d'âge. Mais poursuis donc ce propos torche-culatif, je te prie, et par ma barbe, pour un tonneau, tu auras 60 fûts. Je veux dire de ce bon vin breton, qui d'ailleurs n'existe pas en Bretagne, mais en notre belle région du Véron.
« Je me torchais ensuite, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibecière, d'un panier, mais oh, le malplaisant torche-cul, puis d'un chapeau. Et notez que parmi les chapeaux, certains sont faits d'un poil ras, d'autres de fourrure, de velours, de taffetas, de satin. Le meilleur de tous est celui qui est couvert de poils, car il permet une très bonne absorption de la matière fécale. Puis je me torchais d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, du sac d'un avocat, d'une barbute, d'une coiffure, d'un leurre. Mais pour conclure, je dis et maintiens qu'il n'existe pas de meilleur torche-cul qu'un oison au duvet abondant, à condition qu'on lui tienne bien la tête entre les jambes. Vous pouvez me croire sur l'honneur. Car vous sentez alors au trou du cul une volupté extraordinaire, tant par la douceur de ce duvet que par la chaleur tempérée de l'oison, qui se répand facilement dans tout le boyau du cul, ainsi que dans les intestins, jusqu'à la région du cœur et du cerveau.
Après cet extrait, je ne peux que vous faire écouter ce même torche-cul mis en musique en 1987 par Risset Barrier, ce compositeur-interprète injustement oublié.
Je m'appelle Gargantua, je suis un garçonnet. Mon papa Grand Gousier est fier de m'avoir fait. Il clame à tous les vents, à 5 ans qu'il eut cru. Mon fils a inventé un nouveau torche-cul.
Remercions en cœur le petit Gargantua qui évite aux chrétiens de se salir les doigts.
Je n'ai jamais besoin de me torcher le cul quand il est tout propre et oui comme un écu. Pour se torcher on doit chier auparavant. Tout le propos torche-culatif en dépend.
Le petit Gargantua est un enfant surdoué. Il connaît déjà tout sur le boyau culier.
À la suite d'une curieuse et longue expérience, j'ai inventé un moyen de me torcher le cul, le plus royal, le plus seigneurial et le plus excellent qui fut jamais connu. Je vais vous conter comment j'y arrive. Écoutez. Je me torchais une fois d'un masque de velours, celui d'une demoiselle qui fréquentait la cour. Le toucher de la soie me causa au fondement une chaude volupté par son doux frottement.
Le petit Gargantua est un grand raffiné. Tout ce qu'il nous raconte est vraiment bien torché.
Une autre fois, je pris les oreillettes de satin cramoisi de cette même demoiselle, mais le frottement des dorures auxquelles s'accrochaient les morceaux de merde m'écorchait tout le derrière. Oh, que le feu de Saint-Antoine brûle le cul de l'orfèvre qui les fit et de la demoiselle qui les porta. Oh, heureusement, j'en fus guéri en me torchant le lendemain des gants de ma maman parfumés au vin jaune. Oh. J'essayais la laitue, la gypsière, le panier, l'oreiller, le fichu, l'épinard, le papier. Un très bon torche-cul, c'est le bonnet à poils, car il absorbe bien la matière fécale.
Le petit Gargantua est bon pour la Sorbonne. Sur les problèmes du cul, il ne craint plus personne.
Mais le plus raffiné de tous les torches-culs, c'est l'oison du veuté, il a toutes les vertus. Si on le tient serré, la tête entre les cuisses, on sent une volupté pure et cicatrice. Ah, croyez-moi sur mon honneur, vous sentez au trou du cul une volupté mirifique, tant par la douceur de ce duvet que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle est facilement communiquée aux boyaux culiers et autres intestins, jusqu'à venir à la région du cœur et du cerveau.
Si les dieux sont heureux dans les Champs-Élysées, ce n'est pas grâce au nectar à l'immortalité, c'est qu'ils se torchent le cul avec un oison. Tous les grands philosophes, athées ou théosophes, les ricains, les popov partagent cette opinion.
Ah, cet oison, ça c'est du zéro déchet. 500 ans plus tard, quelques savants écologistes, transgressant les lois diverses et variées mises en place par plus de 5000 ans d'histoire du caca, ont tenté de faire disparaître le papier hygiénique qui avait été trouvé comme alternative à l'oison. Le papier hygiénique est, selon eux, un danger supplémentaire pour notre planète. Et ils refusent les toilettes japonaises avec leur lave-cul et leur sèche-cul, trop énergivores. Alors est née cette idée saugrenue du PQ réutilisable. Je laisse la parole aux spécialistes. Pourquoi remplacer le papier toilette par du PQ lavable ? Le papier toilette est un déchet comme un autre. Bien qu'il ne termine pas dans notre poubelle et qu'il ne vienne pas l'alourdir lors de la pesée mensuelle, il s'agit tout de même d'un déchet qui a vocation à être récupéré et traité plus loin au niveau de la station d'épuration de votre commune. La première étape du traitement des eaux usées est le dégrillage, système de tamis de plus en plus fin, qui a pour vocation de récupérer les déchets volumineux qui iront ensuite directement aux ordures ménagères. Il est un acteur important de la déforestation. Le secteur du papier hygiénique est en augmentation de 10% par an et 3,2 arbres sont abattus chaque seconde dans le monde pour fabriquer du papier toilette, soit près de 99 millions d'arbres conso globe. Un Européen, c'est 13 kilos de PQ en, dont seulement 40% issus du recyclage et encore. On est des bons élèves par rapport à nos potes américains qui ne sont que 2% à utiliser du papier toilette recyclé. Sa fabrication génère l'émission de gaz à effet de serre et des gaz toxiques. Un paquet de 10 rouleaux de papier toilette, c'est 2,5 kg d'émissions de carbone, soit environ 2 grammes par feuille. Le PQ, c'est aussi l'utilisation de colorants, parfums, conservateurs et bactéricides qui dégagent des fumées toxiques lors de la fabrication. Il faudra ensuite les traiter en station d'épuration de l'eau. C'est quoi le PQ lavable ? Ce sont des lingettes en tissu, souvent carrées ou rectangulaires, souvent double face, de la taille d'une feuille de papier toilette classique. Vous pouvez en trouver ou en faire de différentes matières et tissages en fonction de ce que vous trouvez, de vos goûts ou de vos stocks de tissus. Coton, bambou, chanvre, nid d'abeille, éponge, microfibre. Vous pouvez en trouver en vente sur Internet. Après ce texte extrait d'une revue écolo bio zéro déchet, voici, pour rester dans l'ambiance, la délirante et inepte chanson du caca.
Dans la vie, on fait caca tous les jours. caca, tout mou. Dans la vie, on fait caca. Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. On fait caca dans la piscine. On fait caca sur le trampoline. On fait caca dans la cuisine. Non, pas la cuisine.
Revenir au PQ réutilisable, nos écolos ont-ils pensé au nettoyage de ces lingettes ? Programme à 60 degrés, voire 90, pour tuer les microbes, produits blanchissants pour ne laisser aucune trace. Mais peut-être espèrent-ils que, citoyens modèles soucieux de notre planète, nous fassions tremper ces lingettes, puis que nous les lavions à la main en frottant avec du savon de Marseille. Dans mon esprit, certainement récalcitrant, naît une question stupide. Les clients dans les lieux privés ou publics devront-ils avoir sur eux des lingettes ? Ou l'établissement leur fournira-t-il à condition de les rapporter le lendemain, blanchies et repassées ? Peut-être faudra-t-il même laisser une caution. De même pour nos invités, amis ou non, mais voyons, tout a été pensé, les lingettes seront sous forme de rouleaux, attachées les unes aux autres par une petite pression. Vous vous servez, vous vous torchez et vous déposez les lingettes dans un récipient réservé à cet effet. Et le lendemain, dans la joie et la bonne humeur, lessive d'excréments, d'inconnus, d'amis et même de la famille. Je me souviens de la joie de ma mère quand est apparue la couche jetable. Je me souviens du soulagement de ces femmes, de ces mères, de ne plus avoir à nettoyer la merde de leurs rejetons. Les féministes trouvaient, à l'époque, que c'était une avancée. Eh bien, notre avancée à nous sera le lavage du PQ, non seulement celui de nos enfants, mais aussi celui des autres, intimes ou inconnus, peu importe. Il faut sauver la planète. Moi, en réactionnaire farouche, je m'insurge. Je ne prête ni ma brosse à dents, ni mon torche-cul. Et voici le poète Christophe Tarkos, mort en 2004 à l'âge de 41 ans.
Alors j'ai rencontré un homme de merde et je l'ai bien regardé et il était fait tout en merde et il portait des vêtements en merde et il avait des... Dans la bouche, il avait des petites choses très dures et très noires. Et j'ai bien regardé, c'était de la merde très sèche et très dure à la place des dents. Et je regardais sa bouche, je regardais à l'intérieur de sa bouche, et il y avait une sorte de merde pâteuse et un peu coulante. Et c'était dans sa bouche, et ses yeux étaient complètement vitreux. C'est-à-dire, ça coulait marron, ça coulait un peu gluant et marron vitreux. Et j'ai bien regardé au fond de ses yeux et c'était de la merde. Et après, j'ai regardé dans sa tête et j'ai vu qu'à l'intérieur de sa tête, il y avait comme ça deux morceaux de merde très serrés, très noués, qui faisaient des tortillis comme ça dans son cerveau, dans sa tête, et c'était de la merde très serrée. Et j'ai regardé au fond de son cœur, et son cœur, c'était un gros bloc de merde. Et il y avait du jus qui sortait de son cœur, du jus marron, sale. C'était un gros jus de merde qui circulait de partout. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme comme ça soit vraiment entièrement plein de merde. Alors j'ai regardé dedans encore, il y avait un ventre, et dans son ventre, c'était très noué aussi. J'ai bien regardé, c'était bien de la merde aussi qu'il y avait dans son ventre. C'était des tuyaux, mais des tuyaux de merde. Et à l'intérieur des tuyaux de merde, il y avait une sorte de merde plus molle qui était à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme soit complètement plein de merde. Alors je l'ai écouté parler. Tout ce qu'il disait, c'était de la merde. Et tout ce qu'il pensait, toutes ses pensées, c'était de la merde. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un tel homme existe. Je l'ai bien regardé et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu un gros bonhomme de merde.
Je ne peux clore cette chronique sans m'arrêter quelques instants sur l'histoire de la scatologie dans les siècles passés. En revanche, en ce qui concerne le lieu secret, je le garde pour une autre chronique. Le torche-cul n'est qu'un accessoire. En revanche, les excréments à l'origine de la scatologie ont été depuis l'Antiquité un sujet d'étonnement et de fascination. Pour les apothicaires des pharaons, les fientes de l'ibis, l'oiseau sacré, servaient à fabriquer des onguents et des cataplasmes. Les Grecs et les Latins se référaient, eux, aux excréments humains. Xénocrate, disciple de Platon, évoque leurs vertus médicinales. Et pour Pline, c'est l'urine. Ces traditions sont perpétuées au point qu'au XVIIe siècle, médecins, apothicaires et autres guérisseurs développent ces théories. En 1660, le Medicus Microcosmus, un livre du naturaliste anglais Daniel Baker ou Becerius, publié 5 ans après sa mort, expose de manière détaillée les nombreuses vertus des préparations à base d'excréments. Il donne aussi une liste de la médicamentation à base d'urine, comme celle qui consiste à boire sa propre urine en guise de prévention contre la peste. En 1696, Christian Franz Pollini, un Allemand, dans son livre « Pharmacopée excrémentielle », recense toutes les maladies qui, selon lui, peuvent être soignées par une médicamentation excrémentielle appropriée. En 1698, Nicolas Lemery, un chimiste et apothicaire français, dans son « Dictionnaire universel des drogues simples », écrivait « L'urine de l'homme, nouvellement rendue, purge et est bonne pour la goutte. » Pour les vapeurs hystériques, pour lever les obstructions, si on en boit 2 ou 3 verres le matin à jeun. Elle apaise les douleurs de la goutte étant appliquée toute chaude extérieurement sur la partie. Elle résout et dessèche la gravelle, les dartres et les autres démangeaisons de la peau. L'excrément de l'homme est digestif et résolutif, adoucissant, propre pour l'anthrax pour faire venir les bubons pestilentiels à suppuration. Quelques-uns le recommandent sec, pulvérisé et pris à la bouche, pour les enflures de la gorge, pour l'épilepsie, pour les fièvres intermittentes. L'emploi des excréments animaux ou humains servait aussi à la fabrication des fards. Pour cet usage, seuls ceux des animaux étaient employés. En revanche, pour tout ce qui touchait à la sorcellerie, aucun excrément de tout être vivant n'était exclu. Un autre usage, très bénéfique celui-ci, est celui qui consiste à engraisser la terre avec les matières fécales. Tout le monde sait que c'est le meilleur des engrais. Dès que l'homme s'est consacré à l'agriculture, cet engrais est devenu la panacée. Et cela dans toutes les civilisations. Et cela n'avait aucune conséquence négative pour notre écosystème. Malheureusement, cela ne rapporte pas comme les engrais chimiques. Il existe aussi d'autres usages. L'urine pour la teinturerie ou pour empêcher les chaussures de crisser. Les excréments de toutes sortes pour le supplice. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous conseille l'excellent livre de Jean Fexas, « Pipi, caca, popo, histoire anecdotique de la scatologie ». On termine sur une chanson révolutionnaire. Pourquoi ? Eh bien, les nobles étaient assimilés par les révolutionnaires à des trous du cul en raison de leur répugnante mentalité à la limite de l'humanité. Je peux vous assurer que ce terme de cul est largement employé dans les journaux, les chansons, les textes de la période révolutionnaire. Voici donc le tombeau des aristocrates.
Aristocrate, te voilà donc tondu. Le champ de Mars te fout la pelle au cul. Aristocrate, te voilà confondu. Aristocrate, te voilà confondu. Toutes vos noirceurs et vos projets de tissu. À la nation, ils pendent tous au cul. Aristocrate, te voilà donc foutu. Aristocrate, te voilà donc foutu. Aristocrate, vous voilà dans le bahut. J'baiserons vos femmes et vous serez cocu. Aristocrate, je vous vois tous cornus. Aristocrate, je vous vois tous cornus. aristocrate, il vous faut un repos. Le saignis du diable sera votre tombeau. Aristocrate, il vous faut un repos. Aristocrate, il vous faut un repos. Buvons mes frères à la fédération, le bon temps vient avec notre union. Buvons mes frères à toute la nation, buvons mes frères à toute la nation. N'oublions rien et portons à Louis une santé et à tous ses amis. N'oublions rien et chérissons Louis. N'oublions rien et chérissons Louis.
Alors, bonne journée. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.